Les nuits de France Culture.
Au début des années 50, un pays s'impose comme la référence dans l'utilisation du froid pour l'industrie agroalimentaire, les États-Unis. Ayant une avance considérable sur l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils développent une chaîne du froid qui permet de minimiser les pertes des producteurs et de rendre des denrées périssables bien plus durables. Ils investissent aussi dans l'industrie des produits surgelés, encore très peu en vogue en France et dans le reste des pays européens. Ce numéro de Chronique de l'efficience prend la forme d'un récit fait par un certain Monsieur Anquet, de retour d'un séjour aux États-Unis, entouré de plusieurs ingénieurs du génie rural français. Le modèle américain semble visiblement les impressionner, et l'industrie agroalimentaire française va suivre les pas de leurs collègues d'outre-Atlantique, avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Une émission de Victor Simsen, diffusée pour la première fois le 20 décembre 1950 sur la chaîne nationale.
Le développement du froid présente pour notre économie une importance capitale. C'est grâce au froid que l'on pourra éviter les brusques variations de prix des produits agricoles. En effet, l'intérêt du producteur est d'être assuré de la vente de la totalité de sa production, comme l'intérêt du consommateur est de trouver pendant les 12 mois de l'année certaines denrées périssables, même si leur production est saisonnière. Seul le froid peut réaliser ce miracle. Et c'est pourquoi la mission de la chaîne du froid, organisée sur l'initiative de l'Organisation européenne de coopération économique, présente pour la France un intérêt particulier. Monsieur Anquet, ingénieur du génie rural, attaché au service du froid du ministère de l'Agriculture et membre de la mission, se trouve aujourd'hui dans notre studio. Nous allons lui demander de nous entretenir de ce voyage d'études aux États-Unis.
Je voudrais d'abord indiquer que cette mission comprenait 49 membres de 12 pays européens. La France était représentée par 5 experts, 2 représentants des constructeurs, le directeur du bureau d'études de la Société des transports et entrepôts frigorifiques, un délégué chargé d'étudier les problèmes du froid dans l'Union française, et enfin moi-même qui me suis attaché plus spécialement aux problèmes de l'équipement frigorifique en rapport avec la production agricole. Le voyage d'études a duré 2 mois et a conduit les délégués de la côte atlantique jusqu'au rivage du Pacifique. Il convient de noter ici la compréhension et la cordialité de nos hôtes américains qui n'ont pas hésité à nous sacrifier des journées de travail entières.
Puis-je maintenant vous demander quels sont les points que vous avez plus particulièrement étudiés au cours de votre séjour?
Le but essentiel de la mission était de rapporter une vue générale de l'équipement frigorifique américain, aussi bien dans le domaine de la construction des machines frigorifiques que dans celui de la manutention, du traitement et du transport des denrées périssables. Nous avons pu constater que dans ce pays, l'expression « chaîne du froid » était une réalité bien vivante. Prenons un exemple. Les salades produites à Salinas, en Californie, sont immédiatement après la récolte mises en caisse entre des lits de glace. Elles sont transportées en wagon frigorifique et avant le départ, on remplit à la lance les vides du wagon avec de la glace concassée. C'est le procédé dit du top icing. De cette manière, les salades peuvent être amenées en parfait état de fraîcheur jusque sur le marché de New York, bien que le voyage dure en moyenne 10 jours. Ainsi, les producteurs américains sont assurés d'écouler leur récolte sans crainte d'être obligés d'en jeter une partie au moment de la pointe de production.
Oui, alors que chez nous, ces pertes sont considérables.
Elles ont été estimées, en 1949, à 70 milliards de francs par le service du froid du ministère de l'Agriculture. Les consommateurs trouveraient aussi leur compte à cet emploi du froid, assurés qu'ils seraient de trouver à tout moment des denrées périssables à un prix abordable. Enfin, cette couverture froide appliquée aux produits alimentaires permet d'étendre le rayon de leur commercialisation et en particulier d'atteindre les marchés étrangers. Il faut dire d'ailleurs que nous sommes en France sur la bonne voie. En 1949, 10 000 wagons frigorifiques ont été dirigés sur l'étranger. En 1950, 14 000. Il est bien évident que je pourrais citer ici d'innombrables faits, mais tel n'est pas mon propos. Je veux simplement signaler qu'il serait dangereusement utopique de vouloir transposer sans adapter tout ce qui a pu frapper les experts au cours de leur mission, tant les conditions économiques, physiques et psychologiques sont différentes aux États-Unis.
Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur les tendances actuelles de l'industrie frigorifique aux États-Unis ?
L'emploi des chariots à fourche, qui permettent une manutention plus facile avec une main-d'œuvre réduite, est devenu systématique. Aussi, les entrepôts récents sont-ils construits en fonction de cette méthode de manutention? Un seul niveau, large dégagement, chambre très haute, 6 et 7 mètres, porte à ouverture automatique grâce à une cellule photoélectrique. Au point de vue isolation, on prête une attention spéciale à créer une barrière efficace contre les rentrées de vapeur d'eau. D'une manière générale, l'isolation est moins épaisse que chez nous. Par contre, la puissance frigorifique installée est beaucoup plus large en raison du faible prix du courant électrique. On notera également le développement du Freon 12, fluide frigorigène spécial, notamment pour les compresseurs ménagers et commerciaux. Pour les unités industrielles, il est utilisé au même titre que l'ammoniac. Nous avons spécialement remarqué aussi l'emploi de la glace divisée en briquettes, en tubes ou en cubes, surtout pour les petites unités.
Tout cela est fort intéressant, mais quelles leçons peut-on en tirer pour notre pays?
Une conclusion générale d'abord. Les Américains ont un souci aigu du problème de rentabilité. Peut-être pourrions-nous en tirer profit, notamment dans la construction des entrepôts frigorifiques, dans l'allègement des constructions. Mais, d'une manière générale, on ne peut appliquer immédiatement que des astuces de détail. Par exemple, introduire des chariots à fourche dans les entrepôts de la production, construire des wagons à porte coulissante, entreposer des œufs à moins 1 degré après trempage dans une huile minérale inodore, incolore et sans saveur. Mais on ne pourra faire œuvre vraiment constructive et s'inspirer largement de la technique américaine que si l'Europe arrive véritablement à se construire, de manière à constituer un marché unique de 270 millions d'habitants. Nous avons constaté en effet que le développement du froid exceptionnel dans ce pays est dû avant tout à des facteurs économiques appuyés par une propagande intelligente. Alors qu'il n'existe actuellement en France qu'un réfrigérateur domestique pour 100 habitants, nous pourrions espérer ce jour-là atteindre le niveau américain, un meuble pour 5 habitants.
Souhaitons-le.
C'était un numéro de Chronique de l'efficience de Victor Simsen, consacré au développement du froid pour l'économie, avec Monsieur Anquet. Diffusé pour la première fois le 20 décembre 1950 sur la chaîne nationale.